suis trop contente d'être ici. Vous n'avez aucune idée à quel point je suis trop contente d'être ici. Rien qu'en arrivant dans la ville d'Angers, je sentais mon cœur qui faisait « Ouais, je suis à la maison !» C'est trop bien. Ça fait 3 ans, je crois, que je n'étais pas revenue à Angers. Quelque chose comme ça, c'est ça, c'est ça tu sais pas. D'après les photos, c'est ça, chérie? C'est ça. En fait, j'ai atterri ici pour des raisons super bizarres, comme quand Dieu fait un truc qu'il ne vous dit pas. Voilà. Mais il y a longtemps, très très longtemps, c'était, je pense, l'homme venait de découvrir le feu, à peu près. Et j'avais 22 ans. Et j'étais vraiment pas facile. Donc il fallait un Bernard en face, hein, parce qu'il fallait me cadrer. Mais il a su être un vrai papa pour moi, vraiment. Et toute l'église, en fait, m'avait accueillie à l'époque comme ma famille. Et ça m'a fait un bien monumental. Je suis restée d'Angers à l'époque à peu près 5 ans. Et ces 5 ans-là m'ont vraiment marquée profondément. J'ai été heureuse dans cette église, j'ai été heureuse dans cette ville. Et rien que d'être ici, c'est trop bien. Voilà. Cette église, je vous le dis vraiment parce que c'est important pour la suite de mon message aussi. Cette église a été... Un vrai facteur important, un vrai moteur, en fait, dans mon chemin de guérison intérieure. J'ai eu une enfance très, très cassée. À l'époque, je savais que j'avais eu une enfance cassée. J'ai découvert qu'en fait, c'était vraiment très, 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 très cassé, plus tard. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, c'est aussi pour ça que j'étais pas facile. Et je sais que Claudine a beaucoup prié pour moi, mais je sais qu'elle n'est pas la seule. C'est ça qui est bien avec les gens qui sont compliqués, c'est que plus ils sont compliqués, plus on prie pour eux, parce qu'on se dit, Seigneur, il n'y a que toi là qui peux faire quelque chose. Donc j'ai reçu beaucoup, beaucoup de prières, parce que j'étais beaucoup, beaucoup compliquée, et j'ai beaucoup évolué. Donc c'est un peu pour ça que David disait que j'ai grandi ici, parce que finalement, c'est pas faux. En fait, dans mon chemin de foi, c'était mon adolescence ici, donc c'était le pire que vous avez eu, mais ça a été le plus bénissant pour moi. Donc merci pour qui cette église a été, et je suis certaine que cette église est toujours un lieu de bénédiction pour des jeunes qui arrivent et qui sont peut-être un petit peu cassés, mais on a le droit d'être moins jeunes et d'être aussi un petit peu cassés et d'être entourés par la famille qui est ici. You guys okay? Great. Les chrétiens devraient être les humains les plus en santé du monde. Et je parle de santé physique, de santé émotionnelle et de santé spirituelle. Pourquoi je dis ça? Vous avez des idées? Voilà, en gros, vous avez tous dit la même chose parce qu'on a accès à la plus grande source de santé qui est Dieu. C'est lui qui a créé nos corps, donc il a une petite idée comment les réparer. C'est lui qui a créé nos âmes, donc il a une petite idée comment ça fonctionne. C'est lui qui connaît le mieux notre histoire. Donc on a accès à la plus grande source de santé. Est-ce que les chrétiens sont connus sur la terre pour être les humains les plus en santé du monde? Pas du tout. Il y a un petit décalage entre qui Dieu nous appelle à être et qui on est. Vous voulez une bonne nouvelle? Ça ne le dérange pas. Le moins stressé dans l'histoire, c'est Dieu. Parce qu'il se débrouille toujours pour faire ce qu'il veut faire. Bon, il y a des fois, on le bloque un peu, on le ralentit un peu, mais il arrive toujours à faire ce qu'il veut faire. Il y a une dictature dans l'Église qui est la dictature de la joie. J'entends beaucoup dire « Oh, la vie c'est dur, mais la joie du Seigneur est ma force !» Et parfois, c'est vrai. Et parfois, c'est une petite phrase toute faite très confortable pour pas aller discuter des vraies choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui comprend ce que je suis en train de dire? Ouais, donc je ne suis pas la seule à avoir déjà perçu que, oui, la joie du Seigneur est ta force, mais là, en fait, c'est la sienne. Tu ne te l'es pas appropriée, en fait. On est d'accord? C'est de ça que je vais vous parler ce matin. Je voudrais vous parler de santé mentale. Il y a un verset que tout le monde connaît par cœur, plus ou moins. C'est le psaume 23, donc déjà à la base, c'est l'un des psaumes les plus connus. Et le verset 4 qui dit « Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Ou me soutiennent, ou ça dépend des traductions un peu différentes. Est-ce que je peux attirer votre attention sur un détail qui est le début de cette phrase, qui n'est pas « si je traverse la vallée de l'ombre de la mort », mais « même quand ». Est-ce que vous connaissez en français la différence entre « si » et « quand » ? « Si » est une proposition qui engendre du conditionnel, peut-être que, mais c'est pas sûr. « Quand » c'est une certitude. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Autrement dit, les amis, la vallée de l'ombre de la mort, si vous ne l'avez pas encore traversée, elle est devant vous. Vous pouvez essayer de la contourner, mais ça ne marche pas. Ou en tout cas, c'est plus compliqué. J'attire votre attention sur ça parce que, en fait, il y a différents chemins que Dieu nous fait prendre et différentes saisons que Dieu nous fait traverser. Et en fait, on a le droit d'aller pas bien. Et c'est pour ça que je dis que la joie du Seigneur peut se transformer en dictature. C'est-à-dire qu'on arrive le dimanche et on se dit « Je suis un bon chrétien, je vais bien, je suis gay, tout me plaît ». Et en fait, à l'intérieur, on meurt, en fait. Mais si on ne le dit pas ici, les amis, on va mourir en vrai, hein. Parce que c'est ici le lieu le plus sécur pour parler de ce qui ne va pas. En tout cas, ça devrait. Et en particulier dans cette assemblée, moi, je sais que ça a été sécur, en tout cas, à l'époque où j'en avais besoin. Donc, je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. OK ? Ce matin, il y a une personne à qui j'ai demandé « Comment tu vas ?» Et la traduction en 2 secondes de ce qu'elle m'a dit, c'est « K1, K1, mais on se débrouille ». Et ça m'a fait plaisir qu'elle me dise ça, parce qu'elle m'a répondu sincèrement. Et vous savez quoi ? C'est la chose la plus précieuse pour Dieu. Quand notre cœur est sincère, c'est là qu'il peut faire ce qu'il veut avec nous. Quand on vient de chanter « Prends mon cœur, prends ma vie », « Mais Seigneur, ta joie est ma force, mais ta joie est ma force », il peut rien faire avec ça ? Il peut rien faire avec ça. C'est comme, on va faire un essai. Mon stylo est cassé. Est-ce que tu peux le réparer, s'il te plaît ? Tu peux le prendre pour le réparer, s'il te plaît ? Tu peux le réparer parce qu'il est cassé, en fait. Je voudrais que tu le répares. Tu peux le réparer ? Bah, tant que je ne lâche pas, il pourra faire quoi ? Rien du tout. Tu peux le réparer ? Voilà, vas-y. Je suis sûre qu'il va y arriver. Waouh, magique ! Magique ! Mais il faut qu'on accepte qu'à un moment, on est dépossédé de quelque chose. D'accord ? Bon. Vous me connaissez suffisamment, en tout cas, l'Église dans son ensemble m'a déjà vu suffisamment pour que j'ose dévoiler des choses qui ne sont pas si secrètes. Moi, je suis une survivante d'abus. J'ai subi 10 ans d'abus sexuels. Ça, c'était une histoire que je connaissais déjà quand je suis arrivée dans l'Assemblée. Ça ne devrait pas être un secret ou ça ne devrait pas être un tabou parce que statistiquement parlant, ça concerne au moins 10 personnes dans l'Assemblée. Là, je parle de statistiques, ça concerne 1 personne sur 4. Donc, on est plus que 40. Logiquement, il y a au moins 10 personnes ici qui ont vécu un attouchement, un viol, un abus sexuel d'une façon ou d'une autre. Donc, ça ne devrait pas être tabou parce que ce n'est pas si rare que ça. Donc, évidemment, ça m'a détruite. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'étais si compliquée quand je suis arrivée ici, et pour lesquelles c'était si important que vous soyez une famille, et que Bernard soit un papa si bon pour moi. Oui, il n'est pas parfait, hein, je suis au courant. Hein. Ça va, respirez, tout va bien. Mais son cœur de papa a béni mon cœur de petite fille cassée. Ça va ? On peut être en paix avec ce que je viens de dire ? Ok, s'il y a des soucis, vous viendrez me voir à la fin. J'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 15 ans, par le travail de missionnaire américain, et qui était aussi le monsieur qui était le père de famille, il avait aussi un cœur de papa, et il a vraiment cherché ce qui n'allait pas dans ma vie. Il voyait bien qu'il y avait un problème, et il a vraiment cherché, il a vraiment prié, voilà, jusqu'à ce que les choses soient dites. Donc ça, c'était les choses dont j'étais capable de me souvenir. Donc j'avais 16 ans, quand l'abus s'est terminé, Et j'avais 17 ans quand j'ai mis des mots dessus pour la première fois. J'ai porté plainte quand j'avais 20 ans ou 21 ans, par là. Donc il y a eu un procès, auquel Bernard est venu, d'ailleurs, et Daniel. Et en fait, j'ai tenu toute cette période-là à la force du poignet. Je me suis jetée à fond dans la joie du Seigneur. J'étais le plus sincère possible, vraiment, parce que je ne voyais pas d'autre moyen de survivre. Et j'étais une jeune fille joyeuse, un petit peu trop, mais j'étais une jeune fille joyeuse. Bon, la vie a continué, j'ai vécu des guérisons et d'autres guérisons et encore d'autres guérisons. Je me suis mariée avec un homme fantastique. Déjà, à l'époque, je savais qu'il était génial, mais alors maintenant, je sais à quel point il est vraiment, vraiment unique. Et on a eu des enfants, et voilà, on était pasteurs ensemble en Suisse. Je m'occupais de mon troupeau, si je peux dire comme ça, et ça se passait assez bien. On est parti en voyage, comme mon mari vous a dit. Ensuite, on est arrivé à Toulouse et ça a commencé à se passer un petit peu moins bien. Et plus j'avançais à Toulouse, plus j'étais pas bien du tout, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis complètement écroulée. Ça, c'était au mois de novembre l'année dernière. J'allais plus bien du tout, mais alors vraiment plus bien du tout. J'avais pas envie de prier, j'avais pas envie d'ouvrir ma Bible, j'avais pas envie d'écouter de la louange, j'avais envie de voir personne. Je voulais juste rester dans ma chambre, pleurer et attendre que ça passe. C'est plus ou moins ce que j'ai fait. Mais je suis une maman quand même, donc c'était pas tout à fait possible de faire que ça. Mais vraiment, je me suis écroulée, j'ai dû m'arrêter de travailler. Et c'est là que j'ai vu à quel point mon mari était fantastique, parce que lui, il a pris soin. Il a pris le relais là où d'habitude c'était moi qui gérais et que là je pouvais pas. Et il m'a jamais reproché quoi que ce soit. Enfin, si, des petits trucs genre « t'as pas ramassé ?» Bon, voilà. Mais pas d'être mal, en fait. J'ai eu le droit d'aller pas bien. J'ai passé un hiver affreux. Et ça, c'est aussi parce que, tout à coup, il y a une partie de l'histoire que je ne connaissais pas qui s'est révélée à moi. Il y a une partie de mon histoire, donc moi, je savais le contexte de l'abus sexuel, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il était arrivé dans un contexte de violence. J'avais complètement occulté cette partie-là, mais mon père, en fait, était très violent, et il a battu mon frère, qui est celui qui m'a abusé. Et donc, quand mon frère m'a dit, quand j'avais 8 ans, « Eh ben, si tu le dis, papa, il va te gronder », j'ai cru que j'allais mourir, parce que mon papa était trop violent. Du coup, forcément, j'en ai jamais parlé. Mais cette partie-là de l'histoire, je ne l'avais pas, en fait, jusqu'à novembre dernier. Donc forcément, ça a été très violent de découvrir qu'en fait, toute la relation que j'avais avec mes parents était faussée. Enfin voilà, tous mes repères étaient faussés, je me suis écroulée. Et j'ai mis du temps à me reconstruire, mais je suis là, debout devant vous, et je vais à peu près bien. Voilà, parce que Dieu est bon. Je voulais vous partager ça parce que... En fait, c'est trop difficile de mettre des mots quand ça ne va pas. Et j'ai une astuce souvent quand je parle avec des jeunes, puis que je vois bien que ce n'est pas tous les jours facile, puis qu'ils ne veulent pas forcément mettre des mots dessus. Puis que... Je leur dis, tu sais quoi, la prochaine fois que ça ne va pas, tu m'envoies un WhatsApp, tu m'envoies un émoticône caca. Parce que c'est clair, hein, c'est le caca. Mais comme ça, t'as pas besoin de mettre de mots dessus. Parce que les mots, quand ça va pas, on les a pas. Ou bien je suis la seule ? Non. Voilà, j'ai bien pensé. Et c'est tellement important d'avoir un lieu où on a le droit de pas être bien. Pourquoi on est une église ? Pourquoi c'est important de se rassembler ? Parce que le jour où t'as juste pas la force de louer le Seigneur, mais que tu sais que c'est ton seul moyen de survie, c'est OK de venir, de t'asseoir dans un coin, de passer tout ton temps de louange à pleurer, mais de savoir que c'est pas fini. Parce que la famille est toujours là, la famille est toujours en train de louer. Et même s'ils savent pas ce qui t'arrive, c'est pas grave, les larmes elles ont besoin de sortir, tu les laisses sortir et on verra une prochaine fois. Et puis tout le monde n'a pas besoin de tout savoir non plus. Choisissez à qui vous parlez parce que ça c'est encore une autre histoire. Donc l'histoire m'a rattrapée. Et Dieu m'a incité à marcher sur ce chemin avec lui. C'est Dieu qui m'a invité à entendre la peur, à entendre la colère, à entendre les larmes, à entendre les crises de panique, que j'avais étouffées pendant toute mon enfance, en fait, et qui, maintenant, avait besoin de prendre la parole. C'est un petit peu compliqué, mais en fait... Je vais essayer de rien casser. Mais en fait, c'est nécessaire. Parce que si on ne dit pas, si on ne traverse pas la vallée de l'ombre de la mort, est-ce qu'on sait qu'il est toujours à côté de nous ? En vrai. Si nous, on ne sait pas en vrai où on est, est-ce qu'on sait en vrai où il est ? Vous m'avez suivi ? Ou faut que je la refasse ? Je la refais. Refoule-le. Si moi, je ne regarde pas pour de vrai où j'en suis, et que je dis « La joie du Seigneur est ma force, je suis bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît », mais qu'en fait, je ne sais pas où je suis parce que je n'écoute pas mes émotions, je n'écoute pas moi, mon moi intérieur. Si je ne sais pas où je suis, comment je sais qu'il est vraiment avec moi ? Cette fois, vous m'avez suivi ? Si je ne sais pas où il m'emmène, comment je sais que je le suis ? Et pendant toute cette période où j'étais écroulée, et je vous dis, quand je vous dis que j'étais écroulée, c'est que personne m'a vue comme ça à part mon mari, parce que je me suis cachée dans ma maison, je ne suis plus allée au culte, je ne suis plus allée parler à quiconque. À l'implantation, ils m'ont vue de temps en temps, « Salut, je suis vivante !» Hop, je suis cachée. J'étais tout cœur avec eux, mais je n'avais pas de force plus que ça. Et pendant tout ce temps-là, j'ai souvent dit au Seigneur, est-ce qu'on est OK ? Et chaque fois, il m'a répondu, t'es exactement où je veux que tu sois. Ça fait mal, Seigneur, t'es exactement où je veux que tu sois. Ça fait peur, Seigneur, t'es exactement où je veux que tu sois. OK. Et quand on dit, prends ma vie, ça veut aussi dire, ben peut-être un jour je serai écroulée. Et peut-être, c'est une bonne idée d'accepter cet écroulement. Parce que je sais que je sais que je sais que je sais, et je le savais même au plus profond du trou, que ça porte un fruit. Parce que ça, c'est une chose que je sais de Dieu, c'est que s'il me laisse pleurer, c'est pas pour me faire mal. S'il me laisse traverser quelque chose de difficile, c'est pas parce qu'il s'en fiche. Mais je sais que s'il accepte que je paye un prix, c'est pour porter un fruit. Est-ce que c'est pas la mort de Jésus qui a permis que moi je sois sauvée ? Quel autre enfant que Jésus, Dieu aurait voulu sauver du plus dur de sa vie ? Et pourtant, il l'a laissé aller dans la mort à la croix, l'humiliation, la souffrance physique, la souffrance de la trahison avec Pierre qui dit « Ah non, non, mais moi je le connais pas celui-là ». Il l'a laissé. Parce qu'il savait que sinon, toi, aujourd'hui, tu serais fichu. Donc s'il a laissé Jésus payer ce prix-là, pour le fruit, à combien plus forte raison, il y a une raison, il y a un fruit qui vient derrière ce que moi j'accepte de traverser. En l'occurrence, en un sens, j'ai pas le choix. Enfin, oui, j'ai le choix, je peux faire semblant, je peux continuer de faire semblant. Mais d'abord, ça m'a jamais ressemblé de faire semblant. C'était d'ailleurs bien déjà le problème à l'époque. Mais en plus, pour quel bénéfice faire semblant ? Si on met pas des mots sur les choses, en particulier dans les situations d'abus et de violence, elles prennent pas fin. Et moi, j'ai pas envie que ma fille, elle subisse les mêmes choses que moi j'ai subies. Donc, quelle meilleure raison que de mettre des mots. Il y a un autre verset qu'on connaît tous très bien. Est-ce que vous savez quel est le verset le plus court de la Bible ? Jésus pleura. Voilà, ça tout le monde le sait. Jésus pleura. À mon avis, il n'a pas versé une petite larmichette. Parce que je ne sais pas s'il l'aurait écrit, les gars. Ben, à mon avis, pour que ce soit un verset tout entier juste, Jésus pleura, il a dû pleurer sa vie, quoi. Ça a dû vraiment être pleuré, comme un bébé, comme ce que vous voulez, mais pleuré, pas juste « Ouais, c'est un peu dur aujourd'hui, mais la joie du Seigneur est ma force. » Non, je crois pas qu'il a fait ça. Je crois qu'il a vraiment pleuré. Et pourquoi c'est important? Parce que nous, on n'ose pas, nom d'une pipe. Parce que nous, on est là avec nos émotions négatives, que ce soit la peur, la colère, machin, et on... Non, mais ça va, la joie du Seigneur est ma force. Oh, il a les épaules assez larges. Il a les épaules assez larges. Tu peux même lui dire que tu es en colère contre lui, ça ne va pas le déphaser. Il le sait déjà. Moi, je lui ai déjà dit, on a perdu un bébé au début de notre mariage, et on a perdu un deuxième bébé, j'étais presque à 4 mois de grossesse. Quand je suis arrivée à l'hôpital, une fois que j'ai été toute seule dans ma chambre d'hôpital, je n'ai pas dit « Seigneur, la joie du Seigneur est ma force !» J'ai dit « Tu te fous de moi ? Tu te fous de moi ? Tu es obligée d'en prendre deux !» J'étais en colère. L'infirmière, elle est arrivée, elle me dit « Tout va bien ?» J'ai dit « Oui ». Elle me dit « J'ai cru que je vous entendais crier. » J'ai dit « Je suis fâchée contre Dieu, mais ça va aller, on va s'expliquer. » Et puis bon, elle est ressortie. Elle est revenue me voir à 2h du matin. « Ça va toujours ? Oui, oui. Vous vous êtes expliqué avec le Seigneur ? Ouais. Je lui fais un petit peu du boudin, il va me dire quelque chose plus tard, ça va passer. » Elle est revenue me voir le lendemain. Elle me dit « Ça va ?» J'ai dit « Ouais, il m'a toujours pas parlé, mais ça va le faire. » Elle ne m'a pas lâchée, en fait. Ça l'a tellement marquée qu'à chaque fois qu'elle venait me voir, elle me demandait « Alors, vous vous êtes expliqué avec le Seigneur ?» Elle devait se dire « Elle est complètement frappée, celle-ci. » Mais pour finir, oui. Pour finir, j'ai eu une vision de mon fils au ciel. Et je sais que ce n'est pas possible. Mais au ciel, j'ai vu mon fils boiter. Et je me suis dit, ben flûte alors, s'il boite au ciel, il aurait été super mal sur la terre. Il est mieux là où il est. Et ça, c'était ma réconciliation avec cette partie-là de mon histoire. Bon, je sais, je suis bizarre, mais c'est pas grave, vous m'aimez bien quand même. Jésus pleura parce que Jésus n'a pas peur de nos émotions. Jésus pleura parce qu'en fait, c'est complètement OK de déborder. Je suis en train de vous dire que vous avez le droit de le faire aussi et vous êtes là. On croirait que vous êtes suisse tellement vous bougez pas. C'est dire. Il y a aussi l'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour rire, un temps pour se réjouir, un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter. Ça va plus loin encore, hein, se lamenter. Il y a un temps pour la colère, il y a un temps pour le deuil, il y a même un temps pour tuer, d'après l'Ecclésiaste. Je viens vous proposer qu'il y a un temps pour admettre, qu'il y a un temps pour accepter, qu'il y a un temps pour s'approprier nos petits cacas. Accept it, own it, and move on. Une fois que c'est à nous, c'est là qu'on peut avancer. Tant que ce n'est pas notre histoire, on ne peut rien en faire. Donc moi, pendant toutes ces années, j'avais ma grande sœur qui disait « Papa était violent, papa tapait Arnaud », et moi je disais « Ouais, enfin bon, il n'était pas cool, mais on va pas tout noircir non plus, quoi. » Puis maintenant que j'ai le souvenir, je me dis « Ah, bah maintenant, c'est à moi. Donc maintenant, je peux en faire quelque chose. » Et ça, ça compte. Je ne retrouve pas qui c'est, je suis vraiment désolée, mais il y a quelqu'un à qui un journaliste a demandé récemment, c'est quelqu'un de très influent, du genre Elon Musk ou quelqu'un comme ça, mais ce n'est pas lui, mais quelqu'un de très influent dans le monde comme ça, à qui un journaliste a dit « J'aimerais beaucoup que vous me donniez vos clés du succès. » Et il a répondu « Vous ne voudrez pas tout le trousseau, parce que certaines clés, c'est le sacrifice. » Eh bien, je ne peux pas le dire mieux que ça. Si on n'est pas d'accord d'affronter ce qui est moins facile dans nos histoires, de pleurer avec ceux qui pleurent aussi, le succès, il ne sera pas le même. Le fruit, il ne sera pas le même. Et c'est OK si vous n'avez pas envie de vivre cette vie de sacrifice. Dieu, il ne va pas vous forcer parce que ce n'est pas un violeur. Il ne va pas vous emmener plus loin que là où vous voulez aller. Donc c'est OK. Mais il faut savoir que quand on est d'accord, on va plus loin. Right. Je vais avancer un peu parce que je me répète là. Évidemment, tout le monde n'a pas une histoire aussi moche que la mienne, heureusement. Si vous êtes en train de vous dire « Oui, bon, bah là, elle parle à des gens qui ont vraiment vécu l'horreur, et puis moi, finalement, j'étais heureux. » Mais tant mieux, on a besoin de vous. Jamais j'aurais eu d'espérance si j'avais pas vu des familles qui fonctionnaient bien. Jamais j'aurais espéré imaginer que je puisse, moi, construire une famille qui tient la route si j'avais pas vu d'autres familles qui tiennent la route. Si j'avais pas vu des couples comme Bernard et Daniel qui arrêtent pas de se chamailler mais qui s'adorent l'un l'autre, ben j'aurais pas su que c'était possible de construire un couple qui s'adore l'un l'autre et qui se le dit. Donc, on a besoin des gens qui vont bien. Vous mettez pas à aller mal pour le plaisir. Mais si vous avez une histoire difficile, c'est OK de la gérer. C'était ça mon point. On est dans un monde complètement branlant. Des histoires comme la mienne, il y en a beaucoup trop. Et puis, il n'y a pas des histoires que comme celle-là. Vous avez tous en tête des histoires traumatiques, des gens qui ont vécu ou vous-même, qui avaient une histoire compliquée, nanana. Donc, on le sait ou bien on ne le sait pas? On le sait. David, il y a Joshua qui te cherche. Donc on le sait, donc c'est OK que le voisin il aille pas bien, ou pas? Ouais, non, pas ce matin, c'est trop difficile, il fait trop chaud. Je crois très sincèrement que la joie de notre Seigneur est notre force. Je crois très sincèrement aussi que c'est la connaissance de son caractère qui nous sauve. Parce qu'au milieu de tout ça, moi, tous les gens qui m'ont dit « Ah, la joie du Seigneur !» j'avais envie de leur dire « Mais va voir ailleurs si j'y suis », pour le dire poliment. Parce que franchement, là, aujourd'hui, la joie du Seigneur, même pas en rêve. Je ne l'ai jamais dit, je suis restée polie. Vous pourrez demander à mon mari, je suis toujours restée polie. T'as vu, j'ai grandi. Hein. Bernard, il fait « Ah ouais, dis donc. » Parce que je savais que j'avais besoin qu'ils restent comme ils sont. J'avais besoin qu'il y en ait qui continuent à dire que la joie du Seigneur est notre force, parce que c'est vrai, même si on ne le ressent pas. Mais c'est la connaissance de son caractère qui m'a donné le courage de continuer. Parce que comme je vous disais, je sais que si Dieu permet que je paye un prix, c'est parce que je serai récompensée. Je sais que si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Et je sais que depuis que je suis convertie, je lui dis « Seigneur, je veux porter du fruit !» Bon ben meurs, voilà. Mais c'est OK. On a besoin de ne pas lire la Bible pour lire la Bible. On a besoin de lire la Bible pour connaître le cœur de notre Dieu. Parce que plus on connaît son cœur, plus on est en sécurité pour traverser ce qui est devant nous. Et ça, ce n'est pas seulement en termes de santé mentale. Traverser ce qui est devant nous, c'est les prix montent partout et mon salaire, il ne monte pas. OK ? Traverser ce qui est devant nous, c'est le monde, il est de plus en plus carin carin. Et on ne sait pas quelles sont les solutions. Il y a tout qui est englobé dans ça. Ce qui est devant nous, c'est ce qui est devant nous. Il y a de l'inconnu, et il y aura du caca. Mais il y aura des belles choses. Et plus on connaît le caractère de Dieu, plus on est en sécurité pour affronter. Ce matin, ma proposition, c'est que chacun de nous demande au Seigneur, à Jésus, à Dieu le Père, au Saint-Esprit, à chacun d'eux si vous voulez, c'est égal, mais demandez s'il y a une vallée de l'ombre de la mort devant vous que vous êtes en train de contourner. Parce que vous allez vous gagner du temps si vous allez dedans. Et vous allez pouvoir porter plus de fruits. Il y a assez de gens à l'extérieur de ces portes qui sont complètement paumés et qui ont besoin de l'espérance que vous pourrez apporter quand vous aurez traversé votre vallée de l'ombre de la mort. Et ma proposition, c'est Ben, Seigneur, est-ce qu'on peut se demander ensemble, Seigneur, est-ce que il y a une chose qu'il faut que j'arrête d'éviter? Est-ce qu'il y a des larmes qu'il faudrait que je me mette à pleurer une bonne fois pour toutes? Est-ce qu'il y a une vraie colère qu'il faudrait que j'exprime? Il y a tellement de gens, et je dis pas ça parce que je suis dans cette église, je dis ça parce que j'ai été pasteur. Il y a tellement de gens qui sont en colère contre leur pasteur à cause de leurs parents. Et qu'en fait, t'es pas en colère contre ton pasteur. Parce que lui, il a rien à voir avec ta colère. En vrai. Mais on le sait pas. Et c'est normal. Seulement, ça vaut la peine de demander à Dieu, c'est quoi en fait cette colère? C'est quoi en fait ce truc qui me gêne depuis et que je fais toujours la joie du Seigneur et ma force? Mais c'est quoi en fait ce truc? Parce qu'une fois qu'on le sait, bah, c'est là qu'on peut se libérer. C'était ma proposition pour vous ce matin. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je sais qu'on est ici dans un endroit sécure, sinon j'aurais jamais parlé comme je l'ai fait. Je sais que vous êtes dans un endroit où vous avez le droit de pleurer, où vous avez le droit de dire des choses pas belles. Je sais que vous avez un pasteur qui est d'accord de venir au tribunal pour entendre l'histoire la plus glauque du monde, mais parce qu'il sait qu'après j'ai besoin de me cacher dans ses bras. Et je peux me cacher dans ses bras parce qu'il a entendu et il sait de quoi je me cache. Vous êtes en sécurité. Il n'y a pas que Bernard. Hein. Dans mon histoire, c'est lui qui a joué ce rôle-là, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres ici dans cette assemblée qui ont aussi cette carrure, qui ont aussi cette capacité de vous entendre. Vous le savez. Vous les connaissez même mieux que moi, parce que du coup, moi, comme ça fait longtemps que je ne suis pas là, l'église, elle a changé quand même. Mais vous savez que vous savez que vous êtes en sécurité ici. Donc je vous en supplie, acceptez d'entendre la vraie histoire qui est la vôtre, d'entendre le vrai lieu où vous êtes maintenant, parce que vous allez en sortir tellement plus vite. Vous êtes tellement beau. Ça va, je vous ai pas trop plombé le... C'était pas très marrant comme message, mais ça va? Ok. Si quelqu'un veut la prière, évidemment que je suis là, mais que je suis pas seule. Je pense qu'il y en a plusieurs dans l'Assemblée qui sont d'accord de prier aussi. Mais en tout cas, repartez pas avec le ventre à l'air et toutes les plaies ouvertes et puis personne vers qui en parler. Hein ? On n'est justement pas tout seul ici. Donc c'est important de s'en souvenir. Quelle que soit notre histoire, je crois sincèrement, et je l'ai toujours cru depuis la première fois que j'ai parlé de l'abus à mon parrain, pour moi, c'est évident que Dieu peut guérir. Et je ne me tiendrai pas devant vous pour parler de mon histoire si ce n'était pas vrai. Ok ? Donc, quel que soit le degré de désespoir ou de terreur ou de colère ou de ce qui est devant vous, il n'y a rien qui lui fait peur. Il a été d'accord de rester dans la mort. Vous êtes d'accord que... c'est un truc qui est dingue. Je prends juste 2 minutes pour vous dire ça. Mais on a déjà pensé... qu'il avait toute l'armée du ciel à sa disposition, Jésus, il aurait pu choisir de ne pas mourir à la croix. C'est vrai, ça ? Est-ce que vous avez déjà pensé qu'il aurait pu aussi choisir de mourir et de ressusciter, genre une demi-heure après ? Et pourtant, il a passé tout le temps qui était imparti dans la mort. Et ça l'a pas... Il est toujours Dieu, ou bien ? Eh ben oui. Donc, dans ce temps qu'il a passé dans la mort, moi, je suis certaine qu'il a vu pire que ce que toi t'as traversé. Donc, il n'a pas peur. Ok ? Est-ce que la joie du Seigneur est notre force ? Ah oui, mais pas aujourd'hui. Si. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais prier maintenant que le Seigneur vous bénisse. Ok ? Jésus, merci parce que tu consoles, parce que tu entends. Parce que ceux d'entre nous qui n'ont pas de mots, toi, tu connais les soupirs inexprimables et tu accueilles. Ah, Jésus, merci parce que dans tes bras, c'est le lieu de plus grande sécurité. Et c'est toi qui permets qu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort en ne redoutant aucun mal. Parce que ta conduite et ton soutien nous réconfortent. Et c'est vrai, Jésus, que des fois tu ne nous conduis pas dans des chemins confortables, mais on y est en sécurité, d'autant plus qu'on est en famille ici. dans une famille que toi tu as choisie, que toi tu bénis. J'appelle ta bénédiction sur l'assemblée pour que ceux qui sont des réconforteurs, des encourageurs, ceux qui savent entendre soient levés, et ceux qui ont la place d'entendre soient levés pour accueillir ceux qui ont besoin d'être entendus. Que ceux qui ont besoin d'être entendus aient le courage de parler. On appelle ta bénédiction sur cette assemblée pour que chacun prenne sa place et que le plus de cœurs possible soit guéri pour amener encore plus de réconciliation à l'extérieur du monde. Merci pour qui tu es, parce que c'est qui tu es qui nous donne cette espérance. Amen.